19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, ravi de vous retrouver chers amis auditeurs, vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux chaque soir, vous le savez, ce soir, au sommaire de cette émission consacrée à la Libye, émission spéciale, autant depuis quelques jours on parle évidemment, et c'est normal, c'est notre rôle, du séisme au Maroc, eh bien figurez-vous aujourd'hui, on a décidé de consacrer cette édition, les informés, dans cette urgence libyenne, urgence où le secours populaire lance un appel à la solidarité. Les inondations ont fait de terribles dégâts. On va en parler dans une poignée de minutes. Émission pendant une heure avec à la fois des invités du secours populaire, des invités, des spécialistes sur la question libyenne qui seront avec nous, qui vont défiler à l'antenne, qui viendront donner leur analyse, leur point de vue. Vous aussi, auditeurs, si vous êtes sensible à tout cela, 01 53 48 3000, vous nous appelez partout en France. Vous nous livrez votre témoignage, mais également aussi votre point de vue. Parce que vous le savez ici, les informés, c'est analyser, décrypter, mais commenter l'actualité. Et puis le face-à-face avec des débatteurs influenceurs, Jérôme Bonnet, qui est avec nous, qui est journaliste, Karim Alouache, qui est un banquier d'affaires, mais aussi également un acteur politique sur le terrain local. On aura Maître David Libeskind, qui sera avec nous, et enfin, le porte-parole du mouvement MDC, Gamal Abina. Voilà le programme que je vous propose, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, en toute liberté d'expression.
Les informés, l'interview.
Allez, l'interview, vous savez, avec tout de suite direction la Libye, parce que cette urgence libyenne, elle est plus que jamais urgente. C'est Ismaël Assouné qui représente le Secours Populaire. Il est le chef international au sein de cette institution. Bonsoir, bonjour Ismaël Assouné.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous Ismaël Assouné. Vous êtes le chef international chargé de ces questions, donc auprès du Secours Populaire. D'abord, première réaction. J'ai tout entendu qu'effectivement, on parle très peu de la situation en Libye. J'ai entendu également que beaucoup regrettaient que la Libye était un peu effacée des médias français. Est-ce que vous partagez cela ?
Je crois que la réaction de la France a été spontanée et il y a eu un envoi direct et nous on est en contact avec les partenaires pour faire le nécessaire. Donc avant c'était la stupéfaction parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé exactement et l'ampleur de la catastrophe. Maintenant on commence à réaliser la catastrophe et on commence à réagir. J'espère qu'on va avoir la même réaction que pour la catastrophe du Maroc et qu'on puisse aider les victimes, parce que les victimes, que ce soit en Libye ou au Maroc, ils sont des victimes et pour nous, il faut les aider.
Vous avez raison de le rappeler parce qu'effectivement, vous parliez du Maroc, on en parle tous les jours, on parle de la Libye aujourd'hui avec cette édition spéciale. Paris qui se dit solidaire des peuples d'Afrique tout court et d'Afrique du Nord. Cette situation, vous le savez, elle est terrible. C'est une catastrophe sans précédent. Et puis surtout, ces inondations meurtrières en Libye, on parle d'un peu plus de 2900 morts, mais également aussi un peu plus de 10 000 disparus. Tout d'abord, quels sont, vous, Secours Populaire, vous, le chef international, quelles sont les informations, les dernières informations que vous avez à nous livrer, Monsieur Ismaël Assouné?
Les dernières informations, ça ressemble beaucoup à un tsunami qui a dévasté plusieurs villes, surtout la ville de Darna. Et on ne peut pas encore savoir exactement le nombre des victimes. Malheureusement, il y aura certainement, si on entend ce qu'on nous dit, les partenaires, c'est plus que 10 000 morts. Et donc, il y a une partie qui est complètement à la mer. Et de temps en temps, on les trouve, les pêcheurs les trouvent et ils les prennent carrément de la mer.
Vous avez raison de le rappeler, Monsieur Ismaël Assouné, parce que effectivement, le maire de Derna estime que le bilan dans sa ville pourrait atteindre 20 000 morts. 20 000 morts.
C'est possible.
Oui.
C'est possible, parce que la ville de Derna, c'est une ville dont la population a approximativement 100 000 habitants, et ça a été dévasté au moins pour un quart, voire 30% de la ville est dévastée. Et donc, c'est très difficile de savoir exactement le nombre de victimes. Et Et peut-être qu'on va découvrir, oui, des milliers de victimes.
Vous, Secours populaire, vous qui êtes le chef international chargé des questions internationales, vous dites que l'urgence en Libye, le Secours populaire, il lance un appel à la solidarité. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler sur l'antenne dans le cadre de cette émission spéciale consacrée à la Libye, Ismaël Hassounet?
Le Secours populaire est fidèle à ses convictions, c'est-à-dire d'aider les victimes où ils sont. Avant, on a été pour le tremblement de terre en Turquie. Moi-même, je me suis rendu sur place. On est sur aussi la catastrophe de tremblement de terre du Maroc. Et là, maintenant, c'est la Libye. Donc, pour nous, le Secours populaire, il a une expérience des dizaines d'années en matière de secours et en matière de travail sur le terrain. Il travaille avec des partenaires. On a un réseau euroméditerranéen qui regroupe une vingtaine d'associations au niveau de la Méditerranée. Et là, on est en train de former un groupe avec un programme d'aide pour les victimes en Libye. Et donc, pour nous, c'est pareil, hein, comme à chaque fois. Et il faut mettre les gens dans les abris, après peut-être des préfabriqués. Et donc, il faut assurer en plus les produits de première nécessité. Penser au problème de l'eau, c'est un problème qui est important, parce que quand il y a des inondations, les eaux usées entrent sur l'eau potable. Et donc, un des problèmes à régler, c'est l'eau potable.
L'eau potable, comment aider justement, je vous pose la question, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont partout en France d'ailleurs, comment aider depuis la France les victimes de cette terrible catastrophe, Ismaël Hassounet, vous qui représentez le Secours populaire?
Dis donc, financier, on arrive, d'après nos contacts sur le terrain, que ce soit à Benghazi ou dans les environs, les produits de première nécessité. Peut-être qu'on aura un problème pour les filtres d'eau, mais ça, on peut les acheminer avec nous quand on va se rendre sur place. Mais l'appel aux dons, c'est financier, c'est le plus important, c'est le plus direct, et c'est un côté où on peut faire tout directement pour aider les victimes sur place.
Une aide humanitaire, justement, aujourd'hui, vous parlez de cette urgence. Comment comptez-vous vous organiser, vous, Secours populaire? Comment ça s'organise, d'ailleurs, pour les différentes villes qui sont touchées par cette catastrophe, Ismaël Hassounet?
On a l'habitude de travailler en matière de réseau avec les partenaires. Je donne l'exemple dernier en Turquie. On était 5 partenaires pour travailler en Turquie. On communique bien sûr avec les responsables sur place, avec le Croissant Rouge. On a des contacts avec aussi les représentants de la société civile. On est en train de s'organiser pour former des équipes de 4 ou 5 associations et pour rencontrer les partenaires locaux et leurs partenaires aussi sur place et commencer les premières aides pour la population victime de cette catastrophe.
Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message à celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'aider justement la situation en Libye, qui veulent venir en aide aux victimes? Vous leur dites quoi, vous le représentant de Secours populaire?
Je dis principalement que ce soit pour le Maroc, pour la Turquie, pour les Libyens, il ne faut pas tenir compte de facteurs nationalité et pays. Il faut toujours penser que les victimes sont des victimes, et parmi les victimes, il y a des femmes, des enfants, des personnes qui n'étaient pas, n'attendaient pas ce genre de catastrophe naturelle. Donc, pour nous, il faut absolument essayer d'aider pour donner des dons au Secours populaire, pour que ces dons-là soient transformés en aide importante pour la prise en charge de plus de personnes touchées par cette calamité.
Merci Ismaël Hassounet, vous êtes le chef international au sein du Secours populaire. Merci de nous avoir livré ces derniers éléments et merci d'avoir été avec nous. Merci.
Merci.
Et au plaisir.
Merci à vous.
Tout de suite, je vais accueillir les invités de notre plateau, les débatteurs justement dans le cadre de cette émission spéciale consacrée à l'urgence en Libye. Jérôme Bonner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste.
Absolument.
Avec l'ancienne casquette, évidemment, vous pouvez le rappeler, hein, ancien rédacteur en chef.
Sans aucun problème, je ne renie évidemment rien, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, je suis redevenu journaliste lambda.
Absolument, bienvenue en tout cas parmi nous.
Merci.
Gamal Abina, le porte-parole du mouvement MDC, bonjour, bonsoir Gamal Abina.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Adil.
Le banquier d'affaires, mais aussi, pas que, parce qu'il est aussi resté un acteur politique local, c'est Karim Alouage. Bonjour, bonsoir Karim Alouage.
Bonsoir, bonsoir, acteur associatif.
Acteur associatif, c'est vrai, parce que c'est vrai que la politique là, c'est un peu derrière vous. Hein.
Pour l'instant.
Comment ça va?
Très bien.
On attend Maître David Libeskind qui est coincé dans les bouchons. Il ne va pas tarder à arriver, effectivement. Quand vous écoutez le chef international, justement, sur ces questions de l'urgence, l'urgence immédiate, comment vous réagissez, Jérôme Bonnet, et qu'est-ce que cela vous inspire, toutes les déclarations dites par le Secours Populaire à l'instant?
Tout d'abord, je voulais vous remercier, vous féliciter pour faire une émission spéciale Libye ce soir, parce que votre précédent intervenant, qui était de Secours Populaire, donc c'était pas le rôle de faire de la politique, a un peu esquivé votre question, mais en effet, on a vu que les médias français ne parlaient très peu des drames qui touchent actuellement la Libye. Or, les morts libyens ont évidemment autant de valeur. Je pense qu'il y a un aspect proximité, puisqu'évidemment, les Marocains, c'est comme des cousins. En France, on y en a énormément, et on a des liens très forts. Au demeurant, il y a un moment où ça devient un peu indécent, mais il y a peut-être un second paramètre. Finalement, quand on réfléchit un peu et quand on se repenche sur l'histoire récente de la Libye, ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, on va dire, on peut se rendre compte que la France n'est peut-être pas totalement étrangère au marasme dans lequel se trouve la Libye aujourd'hui.
Le marasme, évidemment, auquel est confrontée la Libye, hein, un marasme politique.
Oui, oui.
Économique et social.
Absolument, absolument.
Rappelons-le quand même, la Libye, et on le dira tout à l'heure, elle est dirigée par deux gouvernements. Enfin, c'est un peu.
L'Est et l'Ouest. Et il en est comme ça depuis que les instances internationales, enfin l'OTAN, mais sur impulsion de la France, hein, Nicolas Sarkozy a joué un rôle très important, a déclaré la guerre à Kadhafi. Et comme d'habitude, lorsque l'Occident entend imposer la démocratie à coup de canon, eh ben ça ne fonctionne pas. On sait virer un dictateur, très bien, mais ce qu'on fait, c'est le remplacer par le chaos. Et ce chaos, il perdure encore aujourd'hui. Et si les installations, les barrages, notamment libyens, ont été aussi vétustes, s'ils ont lâché comme ça, c'est aussi parce que le gouvernement et le pays est considérablement affaibli.
Gamal Abina, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Le Secours Populaire, lui, lance une alerte. C'est l'appel à la solidarité.
Oui, je les comprends, parce que c'est vrai que ça vient d'être dit par Jérôme à l'instant, la proximité entre le Maroc et la France est évidente, dans la mesure où il y a 2 millions de Marocains en France, une histoire commune, un passé commun, le rapport du protectorat, le fait qu'il y ait effectivement beaucoup de transferts de capitaux de la part de la diaspora marocaine, et que ce tremblement de terre qui arrive d'ailleurs régulièrement, c'est des zones sismiques à l'Afrique du Nord, touche immédiatement tout le monde, on se reconnaît, il y a une identification. La question libyenne, c'est autre chose, d'abord parce que la responsabilité française est plus qu'engagée. Sarkozy, que je qualifierais de criminel, on peut utiliser le terme maintenant, puisqu'il y a des procès contre lui.
Vous avez le droit à une première clochette.
Oui, vous pouvez avec plaisir. Et je l'assume totalement.
Criminel présumé, on peut dire.
Oui, présumé, on attend la condamnation.
Écoutez, moi je prends des précautions, donc c'est pour ça que je vous balance une clochette. C'est
bien. Ça que je dis, j'engage que moi là-dessus.
Ça n'engage que vous, effectivement.
Et en même temps, il y a un procès qui démarre dans 2 ans, mais au-delà de ça, oui, c'est quelque
chose. Même la clochette, elle a eu peur. Vous vous rendez compte? Vous avez fait pour la clochette, la pauvre.
On va rappeler une autre. Et donc, non, mais plus sérieusement, au-delà du fait qu'effectivement, ce qu'il a fait là-bas est une action qui est extrêmement préjudiciable pour tout le peuple libyen. Rappelons tout de même, et c'est important de le rappeler, ça a été dit pour les barrages, ils n'ont pas été entretenus, ils avaient 40 ans d'âge. Kadhafi, dictateur qu'il soit, tout dictateur qu'il soit, avait mis son peuple et son pays dans une situation de confort matériel incomparable
c'était
en Afrique.
C'était devenu l'Eldorado, d'ailleurs.
C'était un émirat. C'était un émirat africain. C'est quelqu'un qui a porté...
L'Eldorado.
Oui, et plus que ça, c'est quelqu'un qui stabilisait les conflits, c'est quelqu'un qui a impulsé l'Union africaine, c'est quelqu'un qui proposait une indépendance africaine réelle et sérieuse, c'est la raison pour laquelle on l'appelait le roi des rois en Afrique. Hein. C'est vrai qu'il avait un peu un égo surdimensionné, mais dans tous les cas de figure, le pays fonctionnait parfaitement. L'intervention française en Libye était calamiteuse, évidemment. Aujourd'hui, il y a deux gouvernements qui s'affrontent. Un qui est légitime plus ou moins, élu en 2014, c'est celui de Tripoli, tout simplement. L'autre, illégitime et militaire, soutenu par de forces étrangères, celui du maréchal Haftar, qui est un ancien compagnon de Kadhafi qui a été attrapé au Tchad en 87, qui a fait 30 ans aux États-Unis et qui a été complètement formaté à l'américaine. Et pour finir, le sud de la Libye qui est un peu en sécession.
Là, vous parlez de Benghazi.
Benghazi, ouais. Et le sud de la Libye, donc tripolitaine, cyrénaïque, faisant. Donc tout cela pour faire de ce pays, comme ce qu'on voit d'ailleurs au Soudan, ce qu'on a vu en Somalie, ce qu'on a vu en Irak, des pays qui sont divisés en deux ou trois parties, qui sont donc très affaiblis, dont le pouvoir central ne veut plus rien dire, dont l'économie n'existe plus, dont effectivement la capacité de faire face à des problématiques ou des catastrophes comme celle-ci sont inexistantes, sachant que n'importe quel pays subirait ça difficilement.
Là, on est très politique, mais je voudrais qu'on revienne aussi sur l'aspect, absolument, sur la catastrophe et l'aspect humanitaire. Je donnerai la parole à Karim Alouache. Je vais juste lancer une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes à peine. Voilà, si vous souhaitez témoigner ou apporter votre éclairage, 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et Les Informés, vous le savez, c'est ici que ça se passe avec cette émission spéciale consacrée à l'urgence en Libye. Maître David Libeski vient de nous rejoindre. Bonsoir, maître.
Bonsoir.
Comment ça va?
Fatigué parce que j'avais deux audiences aujourd'hui, je viens d'Angers. Puis il fait toujours chaud en fait,
Il fait toujours chaud, effectivement. Et pourquoi vous redoutiez
Je ne sais pas. Depuis 2-3 jours, il y avait un petit vent, il y avait une brise.
Deux jours.
On pouvait garder la chemise manche courte sans avoir trop froid.
Demain 27.
On continue de parler de cette urgence, les amis. Je vous recadre un petit peu. Et vous, tous les autres invités, tous les autres abattoirs qui sont autour du plateau. Par téléphone, vous savez, on est avec Jalel Archaoui. Bonjour Jalel Archaoui. Allô?
Oui.
Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes avec nous? Allô, allô, Jalel Archaoui?
Oui.
Ah, ça y est, on vous a retrouvé. Jalel, bonsoir. Je le rappelle à nos auditeurs, vous, évidemment, la Libye, vous connaissez bien. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, ce qui se passe en Libye, vous l'avez suivi, vous allez nous le dire pourquoi, parce que vous êtes spécialiste de la Libye et vous êtes surtout chercheur associé au sein du Royal United Service Institute. Alors, merci d'accepter notre invitation, mon cher Jalel Archaoui. Tout d'abord, quelles sont vos premières impressions concernant ce qui se déroule, ce qui est en train de se dérouler en Libye? Et puis je vous pose la question un peu politique, c'est-à-dire que, est-ce que vous considérez comme beaucoup que la Libye est un peu effacée des médias français, qu'on a un peu parlé évidemment de cette catastrophe brièvement?
C'était le début, dans les premiers jours, parce que beaucoup de la tension médiatique habituellement consacrée à l'Afrique du Nord, qui déjà est généralement ignorée, tout allait vers le Maroc, une autre tragédie qui a eu lieu le 11 septembre. Et il a fallu plusieurs jours pour que les gens, à travers le monde entier, comprennent que ce qui s'est passé dans cette municipalité de l'Est libyen, Derna, avait une importance planétaire, je devrais dire, parce qu'il s'agit quand même d'un événement qui s'inscrit dans le dossier du réchauffement climatique. Et c'est une ville de 100 000 personnes qui a perdu 15 à 20% de sa population en quelques heures.
En quelques
Donc
heures.
C'est aussi important que...
On parle de 20 000 sur la ville de Dima. Le maire parle de 20 000. 20 000 morts.
Oui, donc 15 à 20% de la population en quelques heures. C'est un Hiroshima que le monde entier devrait regarder de près.
Aujourd'hui, vous savez que le Secours Populaire, ils étaient avec nous en direct, avec nous, là, il y a quelques minutes à peine. Le chef international parlait de cette urgence humanitaire, une vraie urgence humanitaire. Vous, spécialiste de la question Libye, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui? Quels sont les besoins urgents aujourd'hui concernant cette catastrophe en Libye, mon cher Jalel Archaoui?
Je vais vous donner un exemple très, très simple. La France est réputée à travers le monde pour sa logistique, pour ses ingénieurs et ainsi de suite. La première nation qui est arrivée sur le théâtre en question, dans la ville de Derna, c'était la Turquie, et non pas la France. Même si la France a des liens d'amitié, d'ailleurs douteux à certains égards, avec le maréchal Haftar qui contrôle cette province est de la Libye qui s'appelle la Cyrénaïque. Et les Turcs, en arrivant sur place, ont réussi à sauver une dizaine de personnes qui étaient vivantes sous les décombres. Donc vous voyez que il y a effectivement une dimension urgence. Après, il y a aussi le fait que les eaux potables sont en train d'être mélangées avec l'eau qui sort du système d'égout qui a été détruit. Il y a un vrai danger sanitaire. Les survivants, qui sont très nombreux, complètement désemparés, sont là parmi les cadavres, ne savent pas où aller parce que, par définition, la scène est mal gérée. Donc il y a un défi logistique, il y a un défi presque mécanique, en plus de la médecine, en plus de la nourriture, en plus des problèmes d'eau potable, le fait d'approvisionner le carburant. Et tout cela est très urgent. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment un événement qui aurait été difficile même pour un pays très avancé comme le Danemark, la Nouvelle-Zélande ou le Canada. Et là, il se trouve que c'est une municipalité ignorée dans une province arriérée d'un pays oublié. Donc, vous voyez, c'est vraiment le scénario le pire qui s'est déroulé, en quelque sorte.
Dites-moi alors, vous savez, un peu comme le Maroc, il y a cette urgence pour les premières nécessités. Vous vous dites à tous celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui depuis la France, en direction des victimes de la catastrophe. Comment ça s'organise justement? À qui doit-on s'adresser? Est-ce que vous avez quelques pistes? Et comment, évidemment, et aujourd'hui, comment la France, nos auditeurs, peuvent contribuer à leur manière, chacun à son niveau?
Bah, déjà, pour la France, il y a d'abord l'État qui est en train d'intervenir et il est préférable de coordonner avec l'État de la France et non pas de lancer N initiatives individuelles émanant de chaque nation. Donc les organismes français devraient coordonner avec l'État puisque l'État lui-même se sent appelé à cette mission et la coordination se fera. Après, je pense qu'il faut utiliser des pressions démocratiques pour rappeler à la France qu'elle a une responsabilité par rapport au désordre libyen depuis 2011. Elle partage cette responsabilité avec d'autres pays comme les États-Unis, par exemple. Mais j'ai vu tout à l'heure que les États-Unis étaient fiers d'annoncer une donation de 1 million de dollars, ce qui a été perçu à juste titre comme une insulte par tous les Libyens, parce que c'est un montant absolument...
Vous avez raison, effectivement. Une insulte, effectivement, c'est les informations qu'on vous a fait remonter.
Oui, oui, je parle libyen de toutes les provinces tous les jours, c'est mon métier.
C'est votre métier. Aujourd'hui, quelles sont les différentes informations lorsque vous échangez justement avec les différents acteurs en Libye aujourd'hui? Qu'est-ce qui se dit, mon cher Jalal Archaoui?
Bon, d'abord, il y a une dimension dans l'événement qui s'est produit dimanche qui dépasse l'entendement. Imaginez-vous que 15% de la population ou 20% de la population d'Orléans disparaissent en quelques heures. Ce serait dans toutes les unes de tous les journaux. Et même avec ça, la plupart des Français auraient du mal à digérer la réalité de l'événement. C'est quelque chose d'inimaginable, c'est inconcevable. Donc les Libyens savent qu'évidemment, ils sont humiliés par cette tristesse très profonde qu'ils vivent. Cette tristesse, d'une manière très intéressante, est vécue par tous les Libyens de la même façon. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est trois nations, trois provinces séparées, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est faux. On sent un sentiment national, qu'on parle à des gens qui sont à Tripoli, ou au fin fond du Fezzan, ou à l'Est. C'est le même sentiment d'humiliation, de tristesse extrêmement profonde, et aussi de plus en plus de colère par rapport aux gouvernants, par rapport aux élites, par rapport à ces quelques politiciens qui se partagent le pouvoir et qui en profitent pour se mettre beaucoup d'argent public dans les poches. Donc il y a cette colère par rapport à la corruption dont les Libyens ont toujours été conscients, mais là, ça vient cristalliser d'une manière très visuelle leur compréhension existante de ce problème qui est absolument endémique en Libye.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire enfin à nos auditeurs qui vous écoutent partout en France, justement, qui ont envie de bouger hein, pour les victimes de cette catastrophe?
Déjà, je voudrais faire une demande, c'est accepter que ce qui vient de se passer est d'une gravité extrême qui aurait été vécue de manière traumatique même par des pays riches. Et il faut accepter que cela s'inscrit dans le phénomène du réchauffement planétaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Arrêter de dire qu'il y a une hésitation, qu'on n'est pas sûr, ça doit être imputé au réchauffement de la planète tel que ça a été prévu il y a 30 ans. Et on va avoir une répétition de ce type d'événement absolument assourdissant, absolument époustouflant, partout dans le monde. Donc déjà, si on arrivait à accepter ça, ce serait quelque chose qui constituerait un pas en avant. Après, pour les Libyens, je pense qu'encore, comme je le disais tout à l'heure, je préfère exercer une pression sur l'État, sur le gouvernement français, plutôt que de procéder à des gestes caritatifs privés, ce dont je ne suis pas un grand fan.
Merci Jalal Archaoui. Je le rappelle, vous êtes le spécialiste de la question libyenne, mais également aussi, hein, rappelons-le, vous êtes chercheur associé au sein du Royal United Service Institute. Merci à vous, mon cher Jalal Archaoui. Merci.
Il y a quelque chose de très intéressant hein, dans ce qui vient d'être dit.
Jean Bonnet, dites-moi.
Excusez-moi. Lorsqu'il parlait de l'unité du peuple libyen, qui n'a pas brillé par son unité ces derniers temps, le pauvre, et ça m'a rappelé effectivement les mouvements spontanés aussi de
là,
solidarité.
Il a été politique, hein. On note une chose. Hein. Oui. Il a été très politique,
bien
là.
Sûr.
Il y a un vrai message politique de sa part.
Mais si les peuples.
Et c'est un Libyen qui le dit.
Pouvaient réaliser effectivement à la mesure de ces drames, parce qu'on a vu aussi des élans de solidarité entre les Algériens et les Marocains.
Oui,
je parle du peuple,
oui,
suite au drame dernier. Et si les peuples pouvaient s'affranchir un petit peu de la la politique et qu'on pouvait, que ces drames pouvaient servir à rapprocher un peu les gens, que ce soit enfin partout en Afrique du Nord, du coup, et ben finalement ça aurait peut-être servi à quelque chose. On peut avoir cet espoir-là.
Maître David Libeskind.
Non, en fait, votre interlocuteur, là, enfin, le monsieur qui est chercheur associé, a mis un point, a mis l'accent sur un point important, sur l'Occident, les États-Unis et la France, qui, en fin de compte, on fait une opération pour liquider Kadhafi, hein, l'ancien dirigeant. Et à partir de 2014, c'était la guerre civile hein, en Libye. Je crois que depuis 2020, il y a un cessez-le-feu.
Enfin, plus ou moins.
Plus ou moins, oui, plus ou moins. En tout cas, c'est un cessez-le-feu qui est censé être permanent. Voilà, qui est censé être permanent. Mais voilà, on a parlé beaucoup du Maroc, mais on a peu parlé de la Libye. C'est assez singulier parce que bon, il y a quand même ce qui se passe. C'est quand même il y a un tsunami, il y a des tremblements de terre, des inondations, pardon. Et donc, effectivement, faut se mobiliser. Je crois que la France, elle a envoyé une cinquantaine de pompiers, un hôpital mobile. Mais ça, l'Europe, je crois, 500 000 euros.
Enfin, elle a débloqué. 500 000.
C'était 500 000,
c'est pas 500 000, absolument.
Oui, 500 000.
Oui, mais 500 000. Donc, en fait, quand on compare aux États-Unis qui ont versé 1 million de dollars, on est aussi très, très loin du
compte.
Vous
avez entendu sa réaction sur le 1 million ?
On est loin du compte, quand même.
Vous savez pourquoi il réagit comme ça ? Juste, excusez-moi deux secondes.
Gamal Abinah, et ensuite,
parce que les avoirs libyens à l'étranger aux États-Unis, c'est 200 milliards de dollars. On leur jette 1 million de dollars quand on leur a volé 200 milliards.
Il a parlé d'humiliation.
Oui, bien sûr, parce qu'ils leur jettent 1 million contre 200 milliards volés. C'est pas mal.
Avec une calculatrice, il faudrait voir.
Oui, absolument.
C'est vraiment peanuts.
Karim Alouache, justement.
D'abord,
ça devient très politique, tout ça.
Non, mais il y a deux choses. D'abord, il faut exprimer toute sa solidarité avec ce qui se passe au Maroc et en Libye. Et pour moi, ce qui compte, c'est d'abord les peuples, parce que c'est eux qui vivent en fait les crises, je dirais, météorologiques aujourd'hui, et on n'a pas fini. On va pas essayer de comparer les deux, parce qu'il y a 50 000 Français, par exemple, au Maroc, il y a l'histoire du protectorat, il y a une proximité, il y a plus de 2 millions de Marocains en France, et d'ailleurs, je tiens extrêmement à saluer la solidarité de tous les Maghrébins, de tout le monde en France, pour venir en aide. Il y en a même qui ont pris des vols avec des bagages comme ça. On envoie des médicaments, on envoie des choses, pas nécessairement de l'argent d'ailleurs, mais et tout le monde se bouge. Et l'essentiel, c'est qu'on aide les peuples. Ce qui vient d'arriver en Libye, on va être honnête, la réaction elle ne m'étonne pas en France. D'abord, ce n'est pas connu. Ça a toujours eu une image très négative. Après, il y a eu la révolution, si on peut appeler ça une révolution de 2011. Aujourd'hui, c'est compliqué, la Libye, parce que ça a été... Oui, là, il y a une unité dans le malheur. C'est terrible. Mais avant ça, c'était extrêmement divisé. Mais au-delà des aides, et moi, j'ai envie de dire, peu importe qui vient aider, l'essentiel, c'est d'aller aider. On s'en fout de qui vient aider.
Oui, absolument.
Parce que le peuple, il a besoin de couverture, de tentes, de médicaments, de manger, etc. On s'en fout d'où tout ça vient. L'essentiel, c'est de les aider. Et il y a une crise humanitaire. Mais il va y en avoir. Il y en a une deuxième, plus forte. Et c'est peut-être là où l'Europe va réagir. C'est que la Libye, c'est le point final avant d'arriver en Europe. Absolument, pour l'immigration subsaharienne. Et là, on vient d'en voir un exemple, mais c'est loin d'être fini. C'est comme si, à Calais, face à l'Angleterre, on avait ouvert les vannes et allez-y tous, passez de l'autre côté et débrouillez-vous.
Jérôme Bonnet.
C'est ce qui va peut-être pousser l'Europe à réagir activement, parce que les Italiens, ils vont pas gérer très longtemps ça.
Jérôme Bonnet.
À quel
Non, je pensais que vous vouliez réagir, c'est pour ça. Moi.
Je lance la pause.
On se retrouve notamment avec une journaliste qui est en partance là pour la Libye justement dans une poignée de minutes, et on se retrouve avec vous pour parler à la fois géopolitique, mais pour parler aussi de cette action humanitaire. Comment doit-on s'organiser ? À tout de suite. Ne bougez pas. Restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés consacrés à cette émission spéciale consacrée à l'urgence en Libye. Avec Karim Alouache, avec Maître David Libeskind, avec Jérôme Bonnet et enfin avec Gamal Abinah. Allons, on va aller direction, vous savez, justement par téléphone, une autre invitée qui est d'origine libyenne et qui s'apprête à prendre l'avion pour se rendre évidemment en Libye.
Les informés. Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec Saada Ben Salim. Bonjour Saada.
Bonjour, c'est Saada El Sabri.
Ben Savary. Savary. Absolument. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, d'accord. On connaît aussi votre mère, parce que votre mère aussi, c'est en ce moment, hein, je crois qu'il me semblait, j'ai cru comprendre que son avocat, c'est toujours Yacine Bozrow, et que elle est dans la diplomatie. Alors, voilà, ils vont pas rentrer dans le détail.
Ouais, c'est une affaire qui remontait en 2011.
Exactement. Dites-moi, vous êtes journaliste, vous vous apprêtez à vous rendre précisément en Libye. Racontez-nous un petit peu comment va se dérouler un petit peu, évidemment, votre séjour, votre voyage.
Ça aura les mêmes difficultés, j'imagine, que les secours et les urgences et les aides internationales. Dans le pays, l'accès n'est pas aussi facile. Nous attendons les accréditations, les autorisations aussi des autorités à l'Est et à l'Ouest, les deux, parce qu'il faut prendre les deux autorisations. Et là, on va essayer d'être le plus proche possible de la ville. Pour l'instant, même les équipes internationales n'ont pas accédé à la ville de Derna. Les autorités libyennes à l'Est n'ont pas donné l'autorisation. Ils arrivent toujours, tout le monde arrive à l'aéroport de Labreg, qui est l'aéroport le plus proche de la ville de Derna. Il se trouve dans la ville d'Al-Baïda, à l'Est toujours de la Libye. Il y en a aussi qui arrivent à l'aéroport de Benin, à Benghazi, et après ils prennent les voitures jusqu'à Derna. Et à Derna, il y a normalement 7 accès à cette ville, qui n'est pas une grande, très grande ville, une ville qui compte 120 000 habitants, mais quand même elle a 7 accès, dont un seul accès qui est disponible pour l'instant. Les autres, ils sont tous fermés, inondés, et donc la situation est un peu difficile. Il faudra être, surtout pour les journalistes, être accompagné aussi par représentants des autorités.
Des autorités libyennes sur place. Justement, vous, comment comptez-vous vous organiser? Parce que là, vous allez, j'imagine, vous avez des contacts sur place, vous y allez pour combien de temps? Et surtout, qu'allez-vous faire précisément, ma chère Saada?
Nous allons essayer de parler avec les populations sur place, réaliser des reportages, faire aussi parler avec les militants des droits de l'homme qui ont fait appel depuis hier à ouvrir une enquête internationale pour trouver les responsables de cette catastrophe, et les punir, en fait, c'est ce qu'ils demandent. Et on veut essayer de parler avec les autorités aussi, et avec les représentants de la ville, le conseil local de la ville de Derna et les autres villes, parce qu'il ne s'agit pas juste de Derna, il y a Al-Baïda, il y a Sousa, cette ville toute petite, touristique, qui a été engloutie par les eaux et d'autres villes aussi.
Est-ce que selon vous, comme dit le maire de la ville de Derna, est-ce que selon vous le bilan risque de s'alourdir dans les jours à venir?
Oui, aujourd'hui.
En raison, évidemment, des personnes qui sont portées encore disparues.
Oui, parce que les quartiers qui ont été touchés sont habités par à peu près une trentaine de milliers de personnes, et il y a des bilans contrastés, comme vous avez pu le constater. Selon les autorités qui donnent les bilans, on parle de 3 000, 4 000, 5 000, il y en a qui parlent de 20 000 aussi victimes, et il y a les gens qui ont été importés par l'eau jusqu'à la Méditerranée, qu'on va découvrir. Il y a des familles qui ont disparu, il y a plus personne de ces familles, donc on ne peut pas savoir qui a disparu pour l'instant. C'est pour ça que ça peut s'alourdir, oui, dans les prochains jours.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs, ma chère Saada, qui vous écoutent et qui ont envie peut-être de contribuer et d'aider à leur manière auprès des victimes?
Malheureusement, en fait, pour l'instant, oui, c'est vrai que c'est pas aussi clair comment on peut arriver à aider les Libyens, mais on peut même en Libye, c'est pas les aides. Il y a les moyens. Tout ce qui est alimentation, hygiène et tout ça, ça, on peut trouver. C'est vraiment les aides logistiques qui manquent, la Libye. Mais ceux qui veulent aider, oui, ils peuvent peut-être parler avec les organisations, les ONG ici en France, Secours Populaire et autres, et pour pouvoir contribuer à l'aide. En voyant en Libye.
Merci Saadet d'avoir été avec nous. Je vous souhaite surtout alors bon courage, prenez soin de vous et bon courage pour cette mission qui vous attend donc en Libye précisément, Saada.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous dans cette émission spéciale et je remercie au passage Vanessa effectivement qui nous a connectés avec vous. Messieurs, un tour de table parce que évidemment on approche au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors il y a d'un côté cette action humanitaire, cette urgence humanitaire et de l'autre cette géopolitique évidemment avec ce que nous ont rappelé nos invités par téléphone. Jérôme Bonnet, on fait un tour de table. Compliqué quand même hein, évidemment d'essayer pendant ces moments un peu compliqués, surtout quand on parle de catastrophe.
Et oui, il est compliqué de sortir de la politique, d'autant que la dame qui vient de s'exprimer parlait du fait que les Libyens cherchaient les coupables. Il y en a un qui est tout désigné, c'est le réchauffement climatique. Clair, si la tempête Daniel a pris autant de force et qu'elle a dévasté la Libye comme ça, c'est parce que la Méditerranée était à 28 degrés et que ça a créé un choc thermique avec l'air froid des dépressions. Donc, oui. Les plus gros pollueurs de la planète, ce sont pas les Libyens, ce sont les Américains, les Chinois et bon, l'Europe est pas loin derrière aussi. Donc c'est un peu la double peine. Il y a effectivement ces conspirations qui ont fait qu'on a mis la Libye par terre. Il y a le réchauffement climatique en plus. Et il va falloir regarder nos responsabilités en face.
Gamal Abina, on finit sur tour de table, on finira avec
très
ça.
Rapidement, pour ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, parce qu'ils confondent climatologie et évidemment météorologie, qui sont deux phénomènes différents, puisqu'il y a des pressions, des pressions anticyclones. On se rend compte qu'en Libye, il y a eu en même pas une journée 4 ans de pluie qui sont tombées sur cette ville de Derna. En arabe, ça signifie notre maison, ça vous dire un peu. 4 ans en une journée. 2 barrages qui ont cédé, ça c'est les conséquences de la guerre. Et surtout le fait qu'on parle maintenant de Medican. C'est quoi, ça veut dire quoi? C'est une sorte de dérivée de hurricane qui veut dire ouragan en anglais, en américain. Donc pourquoi Medican? Parce que cette confrontation de masse d'air chaud et froid avec une température différente, importante, crée ce genre de précipitations violentes, de cyclones qui se forment au fur et à mesure et qui risquent effectivement de se multiplier. Il ne faut pas oublier que 2 autres pays avaient été touchés par cette même tempête Daniel, qui était la Grèce, pas la Grèce, la limitrophe de la Turquie.
La Bulgarie et la Turquie.
Il y a eu des morts aussi. Ça a fait ce balayage et ça s'est accéléré en étant confronté au effectivement
contractions de Méditerranée et de hurricane qui veut dire ouragan
absolument. Et donc il y a une confrontation des deux masses qui ont fait que c'est tombé massivement.
Karim Alouache.
Moi je crois que l'heure n'est pas à trouver des causes ou des responsables, je crois que l'heure est à aider les populations, c'est pour moi ce qui est le plus important. Des pays vont se mobiliser, il y en a qui se sont mobilisés. Après, la réalité, contrairement au Maroc, où il y a eu un élan de solidarité de tout le Maghreb en France assez extraordinaire, une dizaine quand même de millions de franco-maghrébins, et personne n'a fait, justement, et j'en suis ravi, de la politique. Tout le monde y est allé en disant il faut aider. On connaît. De l'autre côté, c'est pas facilement accessible. Professionnellement, je m'occupe de toute cette zone et croyez-moi, la Libye, c'est pas un pays où on y va comme ça, où on y accède comme ça. Je dois vous rappeler quand même.
La journaliste l'a rappelé, hein.
Que le consulat de France en Libye, là, en Tunisie. David. Donc, voilà, c'est pas si simple. Même en France, par exemple, on sait pas à qui s'adresser. Donc moi, je pense que le plus simple, c'est ce qu'on a fait, nous, de notre côté. On est allé voir les grandes organisations, nationales ou internationales qui savent gérer.
Maître David
Et puis on va donne la barre, voilà.
En 2 minutes, ce qui est important, comme l'a dit votre journaliste, en fait, qui a intervenu, c'est l'accès aux autres sinistrés. On a beau avoir, en fait, d'un paquet d'aide humanitaire pour pouvoir que cette aide humanitaire arrive à destination de la population dans les zones sinistrées. Et il y a, en fait, un exemple, quand même. Par exemple, les États-Unis, en 2003, la ville de Bam, en Iran, avait subi un séisme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des avions. Oui. Pour vous dire que la géopolitique, là, n'a aucun rapport, parce qu'on connaît les rapports quand même conflictuels entre les États-Unis et l'Iran. Et là, je pense qu'il faut faire la même chose.
Merci Jérôme Bonnet, au plaisir.
Merci, avec un immense plaisir.
Évidemment, pour commenter l'actualité française.
Absolument.
Ah, là aussi, il y a de quoi dire. Effectivement, parce qu'on parle de plus en plus de Marine Le Pen. qui accéderait au pouvoir alors.
Et oui, visiblement. En tout cas, elle est, elle est jugée comme crédible par de plus en plus de Français.
Absolument, le seul peut-être à... Bon, enfin bref, on n'est pas là pour commenter l'actualité politique. C'était juste pour annoncer la couleur pour demain.
On a notre lot de malheur pour aujourd'hui.
Merci pour l'invitation, encore une fois, Adil.
Merci d'avoir maître
merci,
David Lisky.
Merci,
pas de souci. Merci à Karim Alouache.
Merci à vous.
À la réalisation, merci à tous celles et ceux qui sont intervenus. Je le rappelle, à nos invités par téléphone consacrés à cette émission spéciale Urgence en Libye. Merci à toutes les équipes, hein, évidemment, Nabil, Vanessa, Gemma, pour avoir organisé aussi cette édition spéciale. On est là, on se mobilise. Et Beurre FM aussi, hein. En permanence, évidemment, et c'est notre rôle, c'est cette mobilisation. Et puis surtout, merci aux auditeurs. À la réalisation, c'était le retour de Solal.
Yeah.
Ah, le retour de Solal. Il a droit à une clochette, absolument. Bilal Lenman, il prend le contrôle de 20h à 21h avec Time Sport. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.